répliques, les leçons de l'affaire Matzneff avec Christine Angot et Sabine Procoris. Depuis la parution, le 2 janvier, du livre de Vanessa Springora, Le Consentement, il y a en effet une affaire Matzneff. Cet écrivain n'a jamais eu beaucoup de lecteurs, mais désormais, tout le monde le connaît, tout le monde en parle, tout le monde a un avis sur lui, sur le milieu littéraire parisien et sur la permissivité post-68ard. Je n'échappe pas à la règle, mais je ne saurais oublier que je suis un mâle blanc de plus de 50 ans. Mon opinion a donc besoin d'être approfondie, complétée, corrigée, voire contredite par des voix plus autorisées que la mienne. J'ai donc invité aujourd'hui Christine Angot, que l'on ne présente pas, et la psychanalyste Sabine Procoris. Et je voudrais d'abord leur demander quelle a été leur réaction au livre par lequel le scandale est arrivé. Qu'avez-vous appris en lisant Le Consentement, Christine Angot ?
Avant de le lire, j'en ai entendu parler, puisque avant même la sortie du livre, fin décembre, il y avait déjà beaucoup de choses dans les journaux. On connaissait ce titre, Le Consentement. Et il y avait des gens qui l'avaient lu et qui en avaient entendu parler et qui déjà prenaient des positions. Prenaient des positions sur ce que vous avez dit, le milieu. Et moi, en entendant tout ça, avant même de lire le livre, je l'ai lu quelques jours plus tard, mais avant même de la lecture, j'étais extrêmement angoissée. Je me suis dit, mais... comment sortir de cette confusion? Comment est-ce qu'on peut dire quelque chose qui ne soit pas seulement le milieu, le truc, hein, mais enfin qui parle du fond, c'est-à-dire l'enfant, la jeune fille qui est dans cette affaire-là. Et je ne savais pas comment même penser. Je n'arrivais même pas à penser jusqu'au moment où j'ai vu la prise de parole de Gabriel Matzneff quand il dit, en gros... apprendre que le livre que Vanessa Springora a écrit sur moi n'est pas le récit de nos lumineuses amours, mais un livre. Hein. Donc autrement dit, n'est pas le livre que moi, Gabrielle Matzneff, j'aurais voulu, souhaité qu'elle écrive, mais le sien, autrement dit. Là, je me suis dit, d'accord, c'est là qu'il faut commencer. Il faut partir de cette parole-là. Et puis, je crois plus profondément et plus personnellement que si j'ai été aussi angoissée à ce moment-là, et que ça a continué par la suite, non pas à la lecture, parce qu'au contraire, le livre est extrêmement honnête, clair, voilà, c'est vraiment quelqu'un qui témoigne de ce qu'elle sait. Donc c'est quand même déjà, c'est pas si fréquent, en fait. En revanche, j'ai quand même noté, très vite, qu'il y avait exactement comme... même si les faits ne sont pas du tout les mêmes et la prise de parole n'est pas la même, mais comme on a vu par exemple autour de Adèle Haenel, une espèce d'accord, une espèce d'appréciation voilà, tout le monde trouvait ça formidable ou devait dire que c'était merveilleux, que c'était voilà, que c'était le MeToo français, etc. Et bien entendu, je n'ai pas pu m'empêcher de faire le rapport avec ce qui me concerne, ou encore il y a 3 ans, quand je sors une semaine de vacances, hein, on dit maintenant on avait Madame Dudéfant, maintenant on a Madame Duderrière, il faudra songer à créer un comité du trou de Christine. J'en passe. J'ai entendu de tout. Donc je me suis interrogée. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Qu'est-ce qui est différent? Est-ce que c'est parce que c'est 3 ans plus tard? Qu'est-ce que c'est? Ou est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est parce que finalement, derrière la relation entre une jeune fille, de 14 ans et un homme beaucoup plus âgé, c'est bien sûr quelque chose qui est mimé de l'inceste, sauf que ce n'est pas l'inceste parce que ce n'est pas son père, et que par conséquent, la société dans son ensemble peut prendre position beaucoup plus facilement et ne pas se trouver renvoyée à son propre problème concernant cette question.
Mais vous avez pris vous-même, Christine Angot, position avec la société dans un article du Monde adressé à Gabriel Matzneff et très sévère avec lui.
Très sévère, c'est pas avec lui particulièrement, c'est avec la position de quelqu'un qui pense qu'il peut à la fois aimer quelqu'un ou avoir aimé quelqu'un, ou en tout cas prétendre que son truc c'est l'amour, mais en fait n'avoir aucune considération de la personne qu'est l'autre.
Sabine Grand-Coris.
Sur certains points, je vous rejoins tout à fait, Christine, et sur d'autres, j'aurais certains désaccords. Le premier point, c'est qu'en effet, comme vous, j'ai lu ce livre après une campagne médiatique quand même assez importante, qui d'une certaine façon, je le dirais peut-être de façon plus raide que vous, prescrivait la façon dont on devait lire ce livre. C'est comparable d'ailleurs à ce qui s'est passé au moment du live sur Mediapart d'Adèle Haenel, puisque la veille de ce grand moment de télévision, comme a dit un certain Frédéric Detu, qui a écrit ensuite un article dans Ligne de Crête expliquant que c'était vraiment une révolution culturelle. C'est quelqu'un qui est spécialiste des crimes de masse et de la Shoah. En parlant de la révolution culturelle d'Adèle Haenel, de son témoignage, du défi testimonial d'Adèle Haenel, révolution culturelle, quand on s'occupe de crimes de masse, on fait attention avec ce genre de termes. Il a comparé à Primo Levi quand même. Bien. Alors donc Adèle Haenel, le jour du live de Mediapart, c'est quelque chose. Le live est arrivé le lendemain de la publication de l'article de Marine Turki qui expliquait ce qu'était son enquête. Bien. Et juste après, vous aviez une explication de texte d'Iris Bray qui expliquait ce que on devait entendre et en fait qui répétait ce que et Marine Turki et Adèle Haenel et Edoui Plenel avaient dit.
Iris Bray, c'est l'essayiste universitaire qui vient de publier un livre aux éditions de l'Olivier sur le regard féminin.
Exactement.
Un livre inspiré par les thèses américaines qui opposent le male gaze au female gaze.
Exactement. Donc, c'est un peu quelque chose de cet ordre. Alors évidemment, moi aussi, j'ai lu après le livre de Vanessa Springora en essayant de le lire de la manière la plus libre possible. Sachant aussi que justement toute la pré-réception du livre s'inscrivait dans le sillage bien sûr de l'affaire Haenel, de l'affaire Polanski, c'est-à-dire qu'il y a un climat dans lequel ce livre est paru. Donc j'ai lu ce livre. Comment l'ai-je lu ? Ben, j'ai essayé de tout simplement déjà de le lire. Et j'avoue que j'ai été. D'abord c'est un livre qui est efficace, on peut dire ça. C'est un livre qui est efficace. Après, est-ce que c'est un livre de littérature ? C'est une autre question. Mais c'est un livre efficace. Néanmoins, en le lisant, je n'ai pas pu me départir d'un certain malaise, si vous voulez, non pas du tout lié à la situation décrite, qui est décrite. En effet, les faits qui sont décrits, d'ailleurs, sont tout à fait confirmés par le livre de Matzneff consacré à cette histoire avec Springora, oui. La prunelle de mes yeux, avec un certain nombre. D'ailleurs, il ne sait pas à quel point il confirme le livre de Vanessa Springora. Peut-être qu'on y viendra tout à l'heure. Donc, c'est un livre qui est certainement, de ce point de vue-là, factuel, honnête, mais du point de vue émotionnel et du point de vue de la façon dont il s'adresse au lecteur, il m'a semblé parfois falsifié. Ne serait-ce que juste une petite chose, cette phrase qui a ad nauseam sa verge dans la bouche à l'heure du goûter, etc. Très bien, voilà la situation, les faits. Mais l'heure du goûter, ça vous met dans la tête un enfant beaucoup plus jeune, 14 ans, vous avez un peu passé l'âge. Et pour moi, contrairement, alors là je suis en désaccord avec vous, je pense que la situation d'une jeune fille de 14 ans et la situation d'un enfant plus jeune n'est pas la même. Et que par ailleurs, la question de l'inceste, et la question de la relation d'adulte avec des mineurs, dans certains cas, eh bien, c'est pas tout à fait comparable, c'est même tout à fait différent. Françoise Dolto, qu'on attaque beaucoup en ce moment, en a parlé clairement.
Alors, la phrase est celle-ci. À 14 ans, on n'est pas censé être attendu par un homme de 50 ans à la sortie de son collège. On n'est pas supposé vivre à l'hôtel avec lui, ni se retrouver dans son lit, sa verge dans la bouche, à l'heure du goûter. Et en effet, la question que l'on peut se poser, Christine Angot, c'est celle de la distinction entre enfants et adolescents. Puisque, avec d'autres, Gabriel Matzneff est qualifié aujourd'hui, notamment dans un article très virulent de Mediapart, de pédocriminel. Alors, si on met de côté la question de manille, une adolescente n'est pas une enfant. Et mon inquiétude, si vous voulez, c'est de voir, à l'occasion de tout ce qu'on a, de cette prise de conscience, des distinctions fondatrices du droit et même de la civilisation, complètement abolie au profit d'une pédophilie générale qui irait de 5 à 17 ans.
Alors,
Christine Angot.
La question de manille, on peut évidemment la mettre de côté, mais enfin, elle est là.
Bien sûr.
Ensuite, il se passe différentes choses. Le livre s'appelle « Le consentement ». Que dit ce livre et ce titre ? C'est que consentir, qui est le critère cardinal la relation sexuelle, c'est ce qu'on nous dit depuis pas mal depuis des années, que consentir, on voit dans le livre que consentir, c'est aussi ne pas consentir, que ça peut être aussi ne pas consentir. Donc si consentir est aussi ne pas consentir, ça veut dire que dire, par exemple, tout le monde a dit, ah ben oui, mais tout le monde le savait, Gabriel Matzneff lui-même n'en a pas fait mystère, c'était dit dans ses livres. Dire n'est pas forcément dire, surtout pour quelqu'un qui met en scène les choses de cette façon avec une certaine perversité, et que surtout, entendre n'est pas forcément toujours entendre. Parce que soi-disant, il faudrait parler, voilà, il vous arrive un truc, tac, il faudrait sortir, il s'est passé ça. Non. C'est pas comme ça que ça se passe, c'est beaucoup plus difficile que ça. Et une fois que j'ai dit ça, ce que je veux dire, c'est que toutes ces notions, évidemment, doivent quand même, on doit bien les avoir présentes à l'esprit. Pourquoi ? Parce que, bien sûr que ce que vous dites est vrai, et que, en dépit de ce qui est en train de se passer, à savoir que l'esclavage sexuel des femmes et des enfants, pour le dire d'une manière rapide, c'est plus possible, c'est fini, comme à un moment donné on a dit l'esclavage des Noirs, 1848, c'est terminé, alors que c'était accepté pendant un temps. Et puis, à un moment, ça passe plus. Ben là, c'est pareil, il y a quelque chose qui ne passe plus. Pour autant, et là je vous rejoins, à fond sur un truc, c'est que c'est pas parce que cette chose-là est terminée que nous devons faire bon marché de la présomption d'innocence, de la liberté d'expression, du secret médical et de la non-rétroactivité des lois.
Alors, vous répondez tout de suite,
oui,
et j'aurai un mot à dire. Sabine Procorus.
Non, alors, déjà, il me semble que le consentement dans ce livre, c'est un titre un peu écran. Un titre qui nous oriente dans un certain sens, qui ne correspond pas, à mon avis, exactement à ce qu'il y a dans ce livre. Parce que dans ce livre, vous avez des choses qui sont un petit peu contradictoires. Alors, Vanessa Springora, c'est ça qu'on a qualifié de très honnête, explique bien que non seulement elle consentait, mais qu'elle désirait. Et cette question du désir, elle existe évidemment quand même aussi dans les relations sexuelles. Non seulement elle a consenti, mais elle a désiré, mais surtout, ce qu'elle dit, et c'est un peu contradictoire, mais après elle explique que son désir et son consentement, en fait, n'étaient pas le sien parce qu'elle était sous emprise. Et c'est évidemment là que moi je me suis beaucoup interrogée en comprenant, pour essayer de comprendre mon malaise face à ce livre. Qu'est-ce que c'est que cette notion d'emprise ? Il y a ça l'emprise, et il y a un deuxième point quand même qui m'a frappée aussi bien dans les interviews de Springora après que dans son livre. C'est qu'elle dit, en fait, si j'avais été la seule, l'unique, l'exception, même si j'avais 14 ans, pas de problème. Et c'est tout à fait confirmé par Gabriel Matzneff dans La fin de la prunelle de mes yeux, qui dit une chose, deux choses, je trouve assez fortes. Il dit que Vanessa, à un moment où ça commence à tourner vinaigre, quand elle pense qu'il a d'autres liaisons, il dit que non, mais bon, c'est pas notre problème ici.
Quand elle comprend qu'elle est un objet.
Ah, je ne dirais pas tout à fait ça. Il dit que c'est quelqu'un donc, qui met ses colères au frigo et qui les mange froides le lendemain, il ne croit pas si bien dire, c'est même 30 ans après, pourquoi pas. Et il dit un mot, enfin il a une expression que je trouve assez intéressante, en parlant de l'amour-passion, ce sentiment cyanure, c'est pas faux. Alors après, il dit que ce qu'elle aime, c'est son amour pour lui, peut-être. Elle, elle dit que ce qu'il aime, c'est sa jeunesse, peut-être. Comme dit Pascal, qu'est-ce qu'on aime ? On n'aime jamais personne, on n'aime peut-être jamais que des qualités qui vont disparaître.
Alors, je trouve le passage peut-être le plus étonnant du livre de Vanessa Springora, c'est celui où elle écrit « La situation aurait été bien différente si au même âge, j'étais tombée follement amoureuse d'un homme de 50 ans qui, en dépit de toute morale, avait succombé à ma jeunesse après avoir eu des relations avec nombre de femmes de son âge. Oui, alors là, d'accord, notre passion extraordinaire aurait été sublime. » Si j'avais été celle qui l'avait poussé à enfreindre la loi par l'amour, si au lieu de cela, n'avais pas rejoué cette histoire 100 fois tout au long de sa vie, si j'avais été en somme, dans sa vie sentimentale, une exception, comment ne pas lui pardonner alors sa transgression ? L'amour n'a pas d'âge, ce n'est pas la question. Là, on voit d'ailleurs manifester la différence de l'enfant et de l'adolescent, et c'est là aussi que la comparaison avec l'esclavage, me semble-t-il, Christine Angot, ne peut pas s'appliquer.
Et je ne parle pas dans le cas là, mais ah oui. D'une manière générale, dans l'époque qu'on est en train de vivre, on est quand même en train de vivre une époque où, concernant l'esclavage sexuel, c'est-à-dire la disponibilité des femmes et des enfants, autrement dit, voilà, ils sont toujours là. Ils sont toujours là et on peut toujours les déshonorer. Ce sont des êtres qu'on peut toujours déshonorer. Oui. Ben ça, c'est terminé.
Mais d'un autre côté, j'ai lu aussi, comme Sabine Procoris, le livre de Mats Neff, La prunelle de mes yeux, qui raconte la même histoire sous forme d'un journal. Et ce qui est intéressant dans ce livre, c'est comme elle dit que cette rencontre l'a changé. Il le dit. Donc, il a congédié toutes ses maîtresses. Qui semble en effet avoir été très nombreuse. Il dit « Vanessa, c'est ma rédemption, je vais devenir un autre. » Vanessa, dans cette histoire, elle le montre très bien, n'y croit pas. Donc elle lui fait sans cesse des scènes de jalousie, mais dans le consentement, elle dit qu'il n'a cessé, après leur rupture violente, de vouloir reprendre contact avec elle. Alors que sa principale accusation, c'est de dire « J'ai 15 ans, j'ai 16 ans, à 17 ans, tu vas me jeter. » Et elle dit à la fin, par exemple, « Atteint d'une grave maladie, c'est donc aujourd'hui, il ne pourra quitter cette terre en paix tant qu'il n'aura pas revu mon cher visage, blablabla. On ne refuse rien à un mourant, blablabla. » Peut-être blablabla, mais cette insistance pourrait montrer que la relation avec Vanessa était peut-être pour lui d'un autre ordre et qu'il l'aimait en tant que telle, pour ce qu'elle était, et pas seulement pour sa jeunesse évanescente. C'est donc une hypothèse à laquelle on peut être amené à croire. Et j'ajouterais simplement que moi, je n'avais jamais lu Mats Neff. Et
moi,
je
l'ai beaucoup lu, moi.
Oui, vous l'avez beaucoup lu, d'ailleurs.
À une époque, oui.
Vous reconnaissez même, Christine Angot, que vous l'avez défendu. Notamment dans cette émission, dans cette émission où Denise Bombardier le mettait en cause, et j'ai lu que dans cette émission vous avez critiqué cette journaliste essayiste canadienne en disant voilà entre Denise Bombardier et Mats Neff il y a
j'ai pas vraiment dit ça. Ce que j'ai dit et ce que je peux redire aujourd'hui et qui va avec la précaution qu'on doit prendre au moment où quelque chose se libère et devient autre, et où il y a une sorte de révolution quand même, c'est évident, c'est pas pour autant qu'il faut se mettre à confondre les livres et les actes. Voilà, c'est uniquement pour cette raison-là.
Oui, c'est ça, c'est
voilà. Voilà, ça c'est très important pour moi. Mais sinon, par rapport à ce que vous disiez, je constate, et j'en suis mais ravie pour vous, dans ce que vous dites de l'insistance de Mats Neff à la revoir, de la récupérer, que tant mieux pour vous, vous n'avez jamais été probablement l'objet d'un pervers qui ne lâche pas sa proie comme ça.
Oui, on peut dire ça, c'est vrai. Mais alors, j'ajoute simplement que ce qui me gêne, moi, dans les livres de Mats Neff, c'est cette tendance à l'auto-célébration. J'ai lu une phrase lapidaire et géniale de Joubert. En littérature, il ne faut pas faire le beau. Et le problème de Mats Neff...
Ni le laid, d'ailleurs.
C'est qu'il fait le beau. Oui. C'est qu'il est satisfait. Donc, Vanessa Springora, c'est le consentement. Gabriel Matzneff, c'est le contentement. Et la littérature autobiographique d'Augustin Aléris, c'est plutôt la mise en jeu de soi, l'examen de soi. On affronte ses propres ridicules ou ses propres difficultés, ses propres perversions. Ce que, en effet, Matzneff ne fait pas. Mais d'un autre côté, je suis, je dois dire, atterré par la curée dont il est l'objet. Bernard Delvaille, le poète, a dit cette phrase magnifique « Je n'ai jamais hué personne ». Et c'est la morale à laquelle je me tiens. Et je suis aussi mal à l'aise devant, à travers Matzneff, la mise en cause de la période post-68art et la mise en cause du milieu littéraire parisien. Et ça, peut-être, l'exposer plus longuement. Bah, Sabine Procoris.
Écoutez, il me semble que, bien sûr, Matzneff, moi non plus, je ne l'ai pas énormément lu. J'avais lu, je pense, la diététique de Lord Byron. Mm-hmm. Je n'ai pas lu ses carnets. J'ai lu La prunelle de mes yeux. Comment dire? C'est pas, alors, c'est un auteur, on va dire, qui fait montre d'un égotisme absolu. Mais d'un égotisme, comme disait Stendhal, qui est quand même sincère. Même s'il fait le beau, ça c'est indéniable. C'est pas, certainement, ça n'est pas Claude Simon, ça n'est pas Philip Roth, ça n'est pas Virginia Woolf, ça n'est pas Marguerite Duras, mais c'est un écrivain. Bien, après, pour revenir à la question pédocriminalité quand même, et ensuite à la curée. Mani, je pense qu'en effet, on ne peut pas le mettre de côté. Bien évidemment que on peut pas le mettre de côté, mais la question, j'ai été enquêtée un peu sur un site Humanium qui s'occupe justement de défense des droits de l'enfant, qui est beaucoup plus intéressant que le site L'Ange Bleu qui a porté plainte contre etc. Parce que L'Ange Bleu, j'ai regardé, il s'occupe de pédophilie, mais les mariages forcés connaissent pas, etc. Bon, des mineurs quand même qui sont non seulement juridiquement avec la bénédiction du droit et de la religion, violée quand même. Bien. Donc Matzneff, d'accord, bien entendu, il y a Mani, mais moi je fais la distinction, très claire, entre ça et puis ce qui se joue dans les relations avec des mineurs. Je pense, je n'en sais rien, qui peut juger de l'amour entre deux personnes? Moi je ne m'aventurerai pas là-dedans, je n'en sais rien. Mais je ne vois pas pourquoi il y aurait une présomption de mensonge, a priori, quand on lit un livre. Que ce soit d'ailleurs Matzneff ou d'autres livres. Ensuite, la curée dont il est l'objet me semble très inquiétante parce que si on revient à l'inceste et aux valeurs établies du bien et du mal, que dit Freud sur l'inceste? C'est le tabou fondamental. Pourquoi? L'interdit de l'inceste, sa structure l'Édipe, passe pas d'abord pour que les positions sexuées garçon-fille soient clairement définies dans les identifications, mais pour que l'enfant s'émancipe de l'emprise, justement de l'emprise, parce qu'évidemment que ça existe, l'emprise. On y reviendra peut-être, mais c'est pas ce qu'on nous sert. C'est pas juste un rapport dominant-dominé. De l'emprise de la famille pour avoir la liberté d'aimer ailleurs. Et Françoise Dolto, qu'on attaque en l'accusant d'être complice des pédophiles, dit bien cela. Elle dit l'inceste, plus l'interdit de l'inceste est structuré psychiquement, plus un adolescent ou une adolescente, et c'est au cas par cas, peut dire non, mais aussi parfois oui. Et on peut pas dire que Vanessa Springora n'ait pas dit oui. Alors, quand elle met tout ça sur l'autre de l'emprise, moi, ça ne me convient pas. Je trouve que ce n'est pas honnête intellectuellement et ce n'est pas juste psychiquement.
Et ce n'est pas tout à fait conforme à ce qu'elle écrit
d'abord,
elle-même.
Et puis de l'emprise, il y en a de toute façon dans toute relation d'amour. Freud disait bien, comparait l'état amoureux à l'hypnose. Et il disait que c'était une relation de foule à deux. Oui, il y a de l'emprise dans l'amour.
Visiblement, pour ce qui la concerne...
Christine Angot.
Visiblement, pour ce qui la concerne, il y a un moment où l'amour dont elle était l'objet... Elle en a douté. Elle s'est demandé ce que c'était que cet amour.
Certainement.
Quand elle s'est aperçue qu'il y avait du mensonge, qu'il y avait de la dissimulation. Et voilà. Vous savez, il faut beaucoup de temps pour, justement, quand on est une très jeune adolescente, et encore plus quand on est l'enfant de la personne qui se permet des choses interdites vous concernant, toujours avec cette espèce de sauf-conduit de l'amour, l'allégation d'amour, il faut beaucoup de temps pour se dire « Ah mais non, en fait, non, en fait, on m'a pas aimé !» Et là, il y a quelque chose qui se passe, peut-être c'est ce qui s'est passé pour elle, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Après, moi, ce qui me paraît ce que vous avez dit de à propos de Gabriel Matzneff. Après, faut dire que lui, il semble pas du tout comprendre ce qui se passe, puisqu'il est toujours centré sur sa personne. Mais je crois que il y a un vrai problème dans le fait que on a tout de suite, et j'ai l'impression que finalement ça m'a beaucoup déplu. Ce qu'il fallait, c'était dire que le milieu, c'était celui qui s'était mal comporté, avant tout, apparemment, c'était le milieu. Un milieu. Les éditeurs, etc. Or, si c'était une affaire de milieu, vous l'avez très bien dit, l'inceste, dont, à mon avis, quand même, ce type de relation est une sorte de mime ou de déclinaison, c'est ce que moi je vois, et quand même, c'est un tabou fondamental, en effet, c'est le tabou fondamental, et il ne se réduit pas à l'attitude d'un milieu ou d'un autre milieu, bien entendu.
Alors, sur cette question du milieu, justement, je voudrais apporter un éclairage. Pour la première fois depuis très longtemps, je ne suis pas d'accord avec Jacques Julliard, qui a parlé dans Marianne de la tribu délirante de Saint-Germain-des-Prés. Mmh. Pas d'accord non plus avec Sylvie Brunel, qui, dans Le Monde, a dit « Non, l'époque n'était pas complaisante, l'époque n'était pas comme ça, c'était pas les mœurs de l'époque, c'était justement un petit milieu dévergondé. » Et là, je voudrais citer le témoignage d'Annie Ernaux, dans Les Années, hein, livre d'ailleurs magnifique. Elle parle de l'ambiance, du climat des années 70, 80. Les hontes n'avaient plus cours. La culpabilité était moquée. Nous sommes tous des judéo-crétins. La misère sexuelle dénoncée. Peine à jouir, l'insulte capitale. La revue Parents enseignait aux femmes frigides à se stimuler, jambes écartées devant un miroir. Les caresses entre adultes et enfants étaient innocentées. Tout ce qui avait été interdit, péché innommable, était conseillé. Voilà l'ambiance de l'époque. Et puis, il faut ajouter que nous étions, je m'en souviens très bien, sous le choc de l'affaire Gabriel Russier. Mmh. Cette professeure de lettres qui avait noué une relation amoureuse avec l'un de ses élèves et qui, après avoir été poursuivie et incarcérée sur plainte des parents, avait mis fin à ces jours. Dans notre révolte contre les préjugés et les tabous, nous n'étions pas seulement hédonistes, nous voulions en finir une fois pour toutes avec le système qui avait conduit Gabriel Russier au suicide. Et donc nous rêvions, c'était notre morale, d'une civilisation non répressive. Le maître mot, c'était la répression. Abolir la répression. Ça a conduit à des excès. Ça a permis, peut-être, à l'abri de la permissivité, des violences et des manipulations. Mais notre temps n'est pas forcément plus intelligent. C'est-à-dire que l'aspiration, c'est plus un monde sans répression, mais c'est un monde sans domination. Voilà. Et donc, on défend toujours les faibles face aux forts. On prend contre les ambiguïtés de la séduction le parti du consentement explicite et éclairé, mais on le fait, comme je le disais tout à l'heure, sans aucun souci des situations singulières ni des distinctions. C'est ça. C'est-à-dire, la littérature fait des distinctions, la littérature c'est l'individu, le droit fait des distinctions, et maintenant, Matzneff, c'est le pervers aux mille visages, parce que Matzneff s'appelle aussi Polanski, s'appelle aussi Christophe Ruggia, s'appelle aussi Woody Allen, et Adèle Haenel, dont vous avez parlé, Christine Angot, se prévaut de ce qu'il est arrivé à Christophe Ruggia pour faire la leçon à Polanski. Mais enfin, qu'est-ce qu'elle en sait? C'est pas la même chose. Et Polanski proteste de son innocence pour toutes les accusations dont il est l'objet aujourd'hui. Non, c'est une scène générale où, si vous voulez, sous la diversité apparente des situations, une seule histoire a lieu. Et ça, je crois que on ne peut pas, si vous voulez, s'en réjouir. Vous dites, on en a fini avec l'esclavage, mais c'est une situation beaucoup trop simpliste.
Vit ses derniers jours, en tout cas. On n'en a pas fini, mais ça vit ses derniers jours. L'esclavage sexuel des femmes et des enfants, j'espère. Enfin, en tout cas, il y a des gens qui se sont emparés de cette qui tentent d'arriver là. Mais alors, pardon.
Bien oui, sûr, la question c'est comment lutter d'une manière juste contre les violences sexuelles réelles. Qui vise les femmes, qui vise les enfants. Dans l'enquête, dans le document que je citais tout à l'heure d'Oumanium, je lisais au sujet de la prostitution infantile, qui est un fléau, qu'au Pakistan, 95% des camionneurs ont recours à la prostitution infantile. 95% parce qu'ils passent 21 jours hors de chez eux et que c'est leur distraction favorite. Je doute qu'ils aient lu Gabriel Madzneff. Bon. Donc, ce qu'on nous dit que... Alors, je ne sais pas du tout pour sauver Gabriel Madzneff sur ce plan, nullement. Mais je crois qu'il y a quand même des choses. Lutter contre la prostitution infantile, c'est lutter contre un système. Les enfants des rues, la pauvreté, toutes ces choses-là, vous en serez d'accord. Et je ne crois pas que le fait que des critiques littéraires comme Antoine Perrault se reconvertissent en auxiliaires de police, parce que c'est ça.
Antoine Perrault qui a écrit
dans Mediapart un article qui commence en disant que la police n'a pas été jusqu'au... Enfin, qu'il va aider la police, quoi, en gros, plonger dans la littérature pédocriminelle. Alors, de Gabriel Madzneff, les critiques littéraires se reconvertissent en auxiliaires de police et la police se reconvertit en critique, en analyste de la littérature. Donc ça, ça m'ennuie beaucoup. Et dernière chose que je voudrais dire sur la question des ligues de vertu qui mélangent tout. Il faut penser quand même à quelque chose, puisqu'on parle de pornographie aussi, à la pornographie du lynchage. Personne n'a mieux parlé que Faulkner, dans plusieurs textes. Et rappelons ce que dit Freud sur la conformité à la morale, ça c'est l'expression kantienne. Il dit bien que l'obéissance aux notions établies de bien et de mal, qu'il met entre guillemets, est, dit-il, préjudiciable à la société, car cette obéissance aveugle encourage directement la méchanceté. La méchanceté, c'est-à-dire la volonté, le désir, le plaisir de nuire. Alors ça, et c'est pourtant quelqu'un que la préoccupation morale, mais jamais moraliste, n'a quitté.
Il faut bien...
Christine Angot.
D'accord. Les excès, les gens qui se font des procureurs à la place des procureurs, évidemment.
Bien sûr. Hein, bon.
Mais si ils se font les procureurs à la place des procureurs, c'est que moi, je n'ai pas vraiment... la même perception. Je ne sais pas où j'étais au moment de cette permissivité générale. Je pense que j'étais en difficulté moi-même et pas du tout dans un climat que c'est cool et que tout va bien et que de toute façon on peut le dire à tout le monde. Faux, absolument faux. Se cacher, mentir. Bon, voilà. Donc moi, je n'ai pas vu, en tout cas, peut-être que dans... un mouvement intellectuel a pu exister et a existé. Pour autant que ça ait imprégné que ce point de vue de « il faut se libérer », etc., ait imprégné jusqu'au fond des êtres, des personnes, je ne le crois pas.
Enfin, quand même,
massivement, ça je ne le crois
Christine
pas.
Christine Angot, il s'est quand même passé quelque chose entre la pilule et le sida. Il y avait une ambiance d'insouciance.
Bien sûr. Je parle pour ce qui est de quand j'entends dire que à l'époque, les adultes pouvaient coucher avec des enfants, que personne voyait ardir. Non. Ça, alors là, moi, j'ai pas vu ça.
Non, c'était voilà. Ce qui était intéressant, c'est ce témoignage d'Hernéo assez étonnant.
Oui, voilà, si bon, ça, on est d'accord.
Non, mais
c'est... mais sur la question de la pédophilie, bon, peut-être il y a eu. Mais je ne sais pas si je peux continuer. Vous voulez
allez-y,
dire
allez-y,
quelque
bien
chose
sûr.
Mais ce que je veux dire, c'est que donc il faut quand même mettre en rapport ce truc des procureurs, journalistes et autres avec les années. Longue, très longue, hein, où justement le procureur ne fait pas son travail, où le commissaire ne prend pas la plainte. Pourquoi ? Vous savez, ça alors là, je l'ai vécu à titre personnel. Ne prend pas la plainte, non pas parce que c'est un mauvais type, c'est plutôt un très bon type. Hein. Simplement, il sait qu'il va y avoir un non-lieu et il vous le dit. Et vous n'avez pas forcément envie de vous retrouver qu'un non-lieu. Et si je peux ajouter encore quelque chose pour la question du milieu, voyez. Qu'est-ce qui se passe dans les milieux comme ça? C'est pas parce que les gens sont eux non plus de mauvaises personnes. Mais il y a, vous savez, la question de l'orgueil, qui est très importante. Que ce soit l'orgueil de la mère, que ce soit l'orgueil des gens qui peuvent être au courant, hein, et qui se disent, oh mais non, mais, et qui eux se mettent dans une espèce de position de juge. Oh mais non, on va pas porter plainte. On est au-dessus de ça. On est au-dessus de ça. Une espèce d'orgueil comme ça. Et là, aujourd'hui, l'orgueil a changé de camp, on pourrait dire.
Bah, l'orgueil n'est jamais un très bon conseiller,
non.
En quelque, qu'il soit dans un camp ou dans l'autre. Et bien évidemment, je souscris tout à fait à ce que vous dites sur le fait que pendant toute une époque, les plaintes des femmes, etc., n'étaient pas bien reçues pour de très mauvaises raisons. Mais je crois que c'est tout à fait inquiétant. Alors, la question de l'état de droit, c'est un ensemble de principes.
Capital.
Vous l'avez très bien dit, la présomption d'innocence, les droits de la défense et la prescription.
Et la non-rétroactivité des lois.
Exactement. Mais quand la justice peut aussi errer, elle erre dans un sens, mais elle peut errer aussi dans l'autre, comme l'a très bien montré, par exemple, Carlo Ginzburg, en analysant le procès Sofri, c'est-à-dire en considérant a priori l'accusé coupable. Et malheureusement, je crains qu'on ne tombe de ce côté-là aujourd'hui.
Mais je ne vais pas forcément prendre la défense de la justice, mais il y a une difficulté dans le cas des agressions sexuelles et des viols, c'est la preuve. C'est-à-dire, il y a un moment donné où c'est parole contre parole. Et là, que peut faire le juge ? J'ajoute que depuis un certain temps déjà, une très grande partie des détenus en France sont des délinquants sexuels. Les crimes sexuels sont quand même très sévèrement punis aujourd'hui. Et j'ajoute aussi, c'est ça qui fait peur, c'est que le tribunal médiatique ne s'embarrasse plus de la justice. L'accusé est coupable.
Absolument.
On le voit aux États-Unis où il tombe dès l'accusation. Et on le voit même dans l'affaire Enel. Personne ne se demande quelle est la version de Christophe Ruggia. Il est mort. Merci. D'ailleurs, il l'était déjà avant. Et peut-être est-ce Adèle Haenel qui a absolument raison. Son témoignage est terrible. Mais vous voyez, donc, il y a aussi cette difficulté. Et vous parliez, Sabine Procoris, du lynchage. Et là, c'est quand même un lynchage médiatique. Ce lynchage, le ministre de la Culture y participe. S'agit de Matzneff, où il veut lui retirer, il demande qu'on lui retire le peu d'argent qu'il reçoit parce qu'il est assez pauvre pour se loger, ou pour Polanski. Donc, vous voyez l'évolution du ministère de la Culture. Oui. Malraux, c'est le ministère de l'héritage de la noblesse du monde. C'est devenu le ministère de l'industrie culturelle. Et maintenant, c'est le ministère du lynchage médiatique. Alors, est-ce que ça va s'arrêter, Christine Angot ?
Oui, parce que je ne sais pas si ça va s'arrêter, mais ce qui est préoccupant, c'est que il y a une chose qui est devenue le sujet de préoccupation numéro un, c'est-à-dire que quelqu'un soit blessé. Autrement dit, la psychologie des personnes est devenue plus importante que les choses elles-mêmes. Les livres de Gabriel Matzneff ou d'autres. Qui, moi, ont pu m'intéresser à un moment parce que je pense que, justement, j'avais une curiosité par rapport à qu'est-ce qu'il a dans la tête. Bon. Mais enfin, qu'on dise, là, il faut plus publier, il faut arrêter, etc. Il décrit quelque chose qui existe. Donc, la littérature, c'est pas seulement pour être là, dire oui, c'est beau, c'est joli, là, là. Non, c'est un instrument de connaissance.
Bien sûr.
Bon, de connaissance de la psyché humaine et pas seulement de telle ou telle expérience, de tel ou tel témoignage, etc. Non, d'une psyché humaine et donc d'une universalité aussi. Bon, si on considère, ce qu'il y a de très paradoxal, c'est que on dit la pédophilie, pédocriminalité, tout ça, c'est plus possible et tout ça, c'est fini. Bon, très bien. Alors ça, d'accord. C'est fini. Mais alors, si c'est fini, alors on ne veut pas savoir ce que c'est ? C'est ça que je ne comprends pas. On ne veut pas savoir ce que c'est ? Mais alors, si, mais sachons ce que c'est. Lisons ce un écrivain qui aurait des tendances pédophiles. Eh bien, très bien, qu'est-ce qu'il a à dire, lui ? Qu'est-ce qu'il a écrit dans son livre, là ? C'est quoi ?
Mais là, et moi, je m'interroge toujours, est-ce qu'on peut parler de pédophilie à propos de la relation de Vanessa Springora et de Gabriel Matzneff. On peut sans doute parler, l'expression a presque disparu du droit, de détournement de mineurs. Là, ça a tout à fait du sens. Oui. Puisqu'en effet,
il a pu jouer de son problématique.
Oui, d'un consentement problématique.
C'est quand même
il
important.
A joué de son ascendant, etc., d'écrivain, oui. de son prestige, de toute cette auréole. Mais pédophilie, non. Et alors, je vais aggraver mon cas, si vous voulez, parce que je tiens aux distinctions. Je crois que c'est la civilisation même.
Oui.
Eh bien, tous les pédophiles ne sont pas des Dutroux.
Sûr.
Allez, tous les pédophiles, c'est pas fournir du trou. Et je rappelle, vous dites cette époque n'était pas ça, mais à cette époque, dans les années 70, on lisait beaucoup, un écrivain d'ailleurs qui avait un style tout à fait extraordinaire, qui était Tony Duvert.
Oui, oui.
Quand mourut Jonathan. Et Tony Duvert a obtenu, pour Paysages de fantaisie, le prix Médicis. Aujourd'hui, bien sûr, personne ne le publierait. Il est mort d'ailleurs dans des conditions terribles.
Il y a un très beau film. Mais je ne sais pas,
Christine Angot.
Je ne sais pas si vous connaissez ce film, mais absolument magnifique, de Emmanuel Berco, qui s'appelle Clément. C'est extraordinaire. Elle a 30 ans quand elle fait le film. Elle met en scène une relation entre un garçon qui a 14-15 ans et une femme de 30 ans. Bon. Et là, voilà, ça n'empêche pas le film d'être magnifique et de parler de ce qui nous agite par rapport à ça, évidemment. Hein? Personne d'entre nous n'est débarrassé de ce genre de désir inavoué, inavouable, interdit.
C'est ce que raconte Mishka Assayas, d'ailleurs.
Oui, 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 dans un texte très bien sur ça. Mon prédateur était une femme, paru oui. dans Le Point. Mais je suis tout à fait de votre avis que la littérature est un instrument de connaissance, mais ce n'est pas un instrument d'édification.
Et bien sûr.
Instrument de connaissance, il y a une magnifique phrase de Benjamin et, qui dit « Trouver les mots pour dire ce qu'on a sous les yeux, comme ce peut être difficile, mais quand ils viennent, ils frappent le réel à petits coups de marteau, jusqu'à en dégager l'image comme sur une plaque de cuivre. » Moi, je lis ça dans Une semaine de vacances, par exemple. Je ne lis pas ça dans Springora, pas du tout. Et ce que je trouve très, très, enfin, pauvre, si vous voulez, c'est que dans les commentaires qu'on a entendus sur Springora, c'est des choses comme « Elle a enfin pu accéder à son identité de victime. » Non, mais vous vous rendez compte ? Accéder à une identité de victime. Mais alors là, comme dit Samantha Gaymer, elle, bad victime, elle. Elle veut pas de ça.
Et Samantha Gettner, c'est la première.
C'est la jeune fille que Polanski a effectivement violée. Bon. Et quand même, c'est un peu effrayant, ça. Et les crimes sexuels, viols, etc., etc., sont en passe de devenir, les crimes par excellence qu'on veut rendre quasiment imprescriptibles. Antoine Garapon, et Denis Salas en parle dans leur livre sur les nouvelles, sur le procès, les leçons d'Outreau, où il montre bien d'ailleurs que les tragiques impasses dans lesquelles s'est trouvé ce procès sont liées aussi à cette sorte de panique morale autour de la pédophilie. Alors je ne dis nullement ça pour défendre la pédophilie, pas du tout, mais il faut aussi pouvoir mettre les choses à leur place. Et c'est un crime contre des personnes, et ce n'est pas un crime contre l'humanité. C'est pour ça que ce n'est pas comparable avec l'esclavage.
Je parlais de l'esclavage sexuel des femmes et des enfants. Attention, et de ce qui, à un moment donné, est accepté et ne l'est plus. C'est ça ma seule comparaison. J'ai pas comparé plus que ça.
Oui, oui.
Non, ce que vous dites est très juste. Donc l'identité de victime, etc. Et pourrait inquiéter en disant, mais au fond, et pour aller dans votre sens. Alain Finkielkraut, vous disiez oui, en effet, on peut aller dans ce sens-là, puisque au fond, est-ce que ça a changé ? Hein ? Il y a quelque chose qui change statutairement, qui est en train d'essayer de changer, qu'en effet, ça s'arrête, hein, que cette disponibilité ne soit plus considérée comme normale et ne posant pas de problème. Hein. Mais pour autant, quand on constate que la seule manière d'accepter la parole de quelqu'un qui a été victime de quelque chose, c'est de la définir dans un statut de victime, et donc d'être en surplomb, naturellement, puisque c'est toujours cette question, hein, c'est pas parce qu'on renonce à la domination qu'on renonce au surplomb, malheureusement. Bon. Et donc là, on dit, ok, ben alors c'est fini ou c'est pas fini? C'est fini ou c'est juste c'est vous qui prenez les commandes?
Oui, mais, je parlais du combat contre la domination, qui a évidemment sa légitimité, mais qui peut, comme je disais, abolir, effacer les différences, les singularités, oui. le clair-obscur. Mona Ouzouf qui, dans un entretien récent, rappelait cette phrase tout à fait extraordinaire de Madame de Mortsauf dans Le Lys dans la vallée. Vous savez, elle se refuse à Félix de Vandenesse, elle est mystique, etc. Et elle a cette phrase, j'ai parfois espérer de vous quelques violences.
Bon, bien sûr.
Elle voulait pas être violée.
C'est l'histoire du verrou de Fragonard.
Voilà. Hein? Elle voulait pas être violée. Elle espérait quelques violences. Tout ça disparaît. Mais je voudrais vous poser une question, Sabine Procoris, qui m'est inspirée par la lettre d'une auditrice. Une lettre tout à fait remarquable, mais je ne vais pas citer le nom de cette correspondante parce que je ne lui ai pas demandé l'autorisation. Et elle dit ceci, le livre de Vanessa Springora, bien plus complexe et même contradictoire que ce qu'en font les trois quarts des lecteurs et des médias, est devenu un évangile qui a fait bien des dégâts. Je ne peux me défendre d'y sentir une emprise, bien pire que celle de Matzneff en son temps, celle, je pense, d'une certaine psychanalyse qui a bien pu, entre autres, lui fourrer dans la tête l'identification de cet homme à un ogre. Un séducteur sans doute, mais un ogre. L'idée de l'emprise d'une certaine psychanalyse.
Alors là, je suis tout à fait d'accord, vraiment, parce que, comme vous dites, justement, puisqu'on parlait de consentement, et que je pense qu'en amour, il n'est jamais éclairé, mais par contre, il peut être libre. Je ne pense pas qu'on soit jamais très éclairé dans l'amour. Enfin, bon, j'ai des gros doutes. Maintenant, la psychanalyse... Oui, ce qui est gênant aussi dans le livre de Springora, c'est les tartines de théories psychanalytiques plaquées, qui sont de la psychanalyse de prise unique et qui sont de la psychanalyse, je dirais, à la Muriel Salmona, c'est-à-dire tout ce truc actuellement,
Salmona, la mémoire, c'est celle qui parle voilà, de culture du viol, voilà, aussi.
Culture du viol, la mémoire traumatique, etc., qui est à 100 000 lieues de ce que l'expérience de la psychanalyse permet à un sujet, à une personne, qui est au fond de ne pas se renier, c'est-à-dire même si on peut regretter d'avoir dit oui, ça peut arriver à tout le monde, dans quelque situation que ce soit, même si on peut regretter. Son consentement, n'empêche qu'on n'a pas à renier le fait qu'on a dit oui et que dans ce moment de oui, même s'il était, comme on dit, sous emprise, mais l'emprise, encore une fois, c'est une histoire, c'est une relation à double polarité active hein, et qui peut se retourner, comme Thomas Mann l'a très bien montré dans Mario et le magicien. Hein, c'est une seule et même faculté, commander, obéir, se soumettre et abdiquer de soi. Et on le voit très bien dans les textes de Jeanne des Anges, la possédée de Loudun. C'est formidable, ces textes-là. Description de l'emprise. Hein. Ben, je crois que, en psychanalyse, ce qui est important pour un sujet, c'est de retrouver, même dans les situations les pires qu'il ait pu traverser, le fait qu'il a toujours été un sujet, retrouver, par ses petits coups de marteau sur le réel, parvient à des levare, comme disait Freud, et non pas de Paul, et en plaquant de la théorie, réintégrer, reprendre sa position de sujet, y compris dans les moments où on a été aliéné, et c'est de là que peut naître une émancipation.
C'est-à-dire que ce qu'il ne faudrait pas, et qui est en train de se passer, hein, c'est que la reconnaissance qu'on est en train d'avoir de la diversité sociale, il faudrait pas que cette vision, hein, que voilà, que la société est diverse, hein, avec ce mot diversité, il faudrait pas que cette diversité-là, sociale, nous fasse oublier notre propre diversité intérieure.
Absolument. Hein.
Et c'est ça qui se passe aujourd'hui.
Bien sûr, et dans le travail du psychanalyste avec ses analysants, et le travail de l'analysant, c'est de pouvoir effectivement composer, apprendre à composer avec cette complication, cette complexité de sa propre réalité psychique et de pouvoir, à partir de ça, exister dans le monde partagé. Pas comme une victime, pas comme un marginal, pas comme un bourreau, et en sortant des représentations binaires. Et c'est vraiment, en cela, une démarche d'émancipation et de liberté.
Cependant, je crois que ce que nous avons à faire, ce que vous dites, et bien sûr que c'est vrai, mais en même temps, il peut y avoir un côté, comme vous dites, je ne sais pas ce que vous avez dit à propos des plaquages théoriques, un peu, pas de supermarché, mais...
Prise unique.
Voilà. Ça n'existe plus, les
j'étais pas loin.
Je suis trop vieille.
Oui, voilà.
Donc, bon...
Je me souviens des prises uniques. Voilà.
Alors, je pense qu'on est obligé, et c'est comme ça, et c'est... Enfin, c'est comme ça que ça fonctionne.
Ben oui.
Hein, ce qu'il faut qu'on essaye de faire, c'est qu'il y ait deux choses. Les deux choses, là encore. Hein. L'une qui n'exclurait pas l'autre. La psychanalyse de prise unique qui ne doit pas faire disparaître ben, la diversité profonde des êtres. Parce que de toute façon, parce que c'est ça aussi qui permet, malgré tout, même si c'est... Moi, ça me rend malade, hein, Muriel Salmona, tout ça me rend malade. Donc, c'est pas compliqué. Mais pour autant, vous pouvez pas... On peut pas exiger de chacun de faire son chemin intérieur, personnel. Voilà, il y a aussi des gens qui vont se ranger derrière une idée. Bon, on ne peut pas l'empêcher.
Je sais, mais je trouve que la vulgate psy fait des dégâts considérables et ne permet pas du tout aux personnes de vraiment traverser, de traverser ce qu'ils ont pu vivre. Et je pense que gens avec ou sans psychanalyse personnelle sont tout à fait capables, en temps de les ressources, de s'émanciper de certaines situations d'aliénation parce que les êtres humains ont des ressources.
Bien sûr.
Ils n'ont pas forcément besoin de la psychanalyse pour ça.
Merveilleuse discussion, merveilleuse conclusion. Vous étiez en désaccord et en même temps, nous avons progressé ensemble vers peut-être un peu plus de clarté. Merci beaucoup Christine Angot, merci Sabine Procoris, merci beaucoup également. Et donc, vous trouverez les références bibliographiques sur le site répliquefranceculture.fr où l'émission est téléchargeable pendant un an et écoutable à vie. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « La crise de l'universel ». Mes invités seront Chantal Delsol et Francis Wolff. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Lechard et François Connac. À la technique aujourd'hui, Xavier Lévesque. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannenet.